שכן מיישם עליכם תחיו לאורך ימים טובים ושנים נעימים. Nous poursuivons notre étude de Parashat Vayeshev. Donc nous étions arrivés à la mission que confie Yaakov, d'aller voir, d'aller à la rencontre de ses frères, qui font paître les troupeaux à Shrem, et de s'enquérir de leur situation, de leur santé, et de savoir comment ça se passe. Donc Yaakov sait pertinemment la dissension, la haine que les frères ont pour Yosef, et malgré tout, il lui propose de l'envoyer. Et Yosef accepte, il lui dit « Ineni ». Donc il envoie. « Voyishalehu me'emek Hevron » Chazal disent qu'il l'a envoyé afin de que s'accomplisse le conseil profond, l'idée profonde enfouie chez Abraham Avinu. Donc c'est la parole que Dieu a dictée à Abraham lors de l'alliance des morceaux, que sa descendance sera étrangère dans un pays étranger et qu'ils y seront asservis. Donc c'est pour que cela se réalise. Alors, comment ça va se réaliser? Donc, Yosef part et arrive à Shrem et il rencontre un homme. Il voit que ses frères n'y sont plus. Vayomerlo. Alors, Vayomer Israël et Yosef. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, Vayimtsayo Ish. Donc, un homme l'a rencontré. Et Veiné, il le trouve qu'il s'est perdu ou qu'il est là étonné de ne pas trouver ses frères. Et il lui demande. Donc, Yosef est en train de chercher ses frères et il voit qu'il tourne à droite, à gauche, il essaye il ne trouve pas ses frères. Alors l'homme lui demande, qu'est-ce que tu recherches? Et Yosef lui dit, je cherche mes frères. Voyons Meraïch, Nassomizé. L'homme lui dit, ils ont quitté ce lieu-là. Et j'ai entendu qu'ils sont partis ailleurs à Dothan. Donc il est marqué ici trois fois le mot Ish dans ces versets. Et ça fait allusion, Ish fait référence à un ange. À cause de vous croire envoyer un ange. Est-ce que l'ange a l'intention de dissuader Yosef de continuer sa route? Ou bien l'ange est là pour indiquer à Yosef le chemin à suivre? Donc on pourrait, il lui fait une allusion. Rachid dit qu'il lui fait une allusion. Tes frères, tu cherches tes frères, ils ne sont plus exactement comme tu le crois. Ils se sont éloignés de la fraternité, de l'amour qu'ils auraient pu avoir pour toi. Donc il le met en garde. Malgré tout, Yosef poursuit son chemin et les rencontre. Donc les frères l'observent, le voient arriver. Donc il dit, voilà, le rêveur arrive, celui qui est Baal HaLomot. Donc ils décident, ils se proposent de le tuer pour mettre un terme que les rêves ne se réalisent pas, parce qu'ils craignent que la réalisation de ces rêves, c'est une exclusion, une destruction de la maison de Yaakov. Alors ils disent, « Ve'ata lechou ve'nargeou ve'nashlicha be'ahad, nanishlichaou be'ahad aborot. » Venez, on veut le tuer, on le jette dans un puits. Et on dira qu'une bête féroce l'a dévoré, l'a tué. Reuven, Vaishma Reuven, Vayatzilo Me'adam. Reuven, c'est Reuven qui intervient et qui le sauve de ses mains, de leurs mains. Alors, qu'est-ce qu'il propose, Reuven? Vayomer Alem Reuven, Atishpechudam, ne versez pas le sang. Ashtichu Oto et la Borazé. Jetons-le dans ce puits. Asher Bamidbar, Veyad, Altishlechubo, ne portez pas votre main sur lui. Et cela, il l'a fait afin de le sauver, de le ramener à son père. Donc, quand il arrive, quand Yosef arrive, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils lui enlèvent, Voyavshitu et Yosef et Koutonto et Kouton et Apassim. Donc, ils lui enlèvent la tunique et la tunique supplémentaire qu'il avait, que son père lui avait fait, la tunique de rayure. Et ils le prennent, ils le mettent dans le puits. Veabor, le pasuk dit, Veabor, Rek, Enbomaim, il n'y avait pas d'eau dans ce puits-là. Il est vide, il n'y a pas d'eau. La répétition, il est vide, le puits est vide. Et il n'y a pas d'eau, ça signifie qu'il y avait autre chose. Chachamim disent qu'il y avait des serpents, des scorpions, des bêtes, des animaux dangereux. Et eux, ils se sont installés à manger. Donc, et quand ils s'installent à manger, Vayiru veine orhat Ishmaël, alors ils voient, il va venir une caravane de bédouins, donc, et ils décident de le vendre. Donc, ils le vendent, et Réhouven n'est pas là. Réhouven est, nous disent Chazal, Réhouven est parti faire teshuva sur l'acte qu'il a défait la couche, il est marqué dans la paracha de la semaine dernière. Vaishkav, après que Rachel soit décédée, Yaakov a fixé sa demeure avec Bilha. Et Réhouven, il agit en réaction à l'offense que cela fait à sa mère. Donc il défait la couche et le pasouk considère, lui attribue le fait qu'il ait eu un rapport, qu'il est couché avec Bilha. Vaishkav Reuven et Bilha. Donc c'est ainsi que cela lui est attribué. Cependant, Reuven fait tchouva sur ça. Donc il se rend compte de la gravité de son acte, et ici il va faire tchouva, et il n'est pas là au moment de la vente. Donc quand il revient, il se rend compte, il se dit, où est passé Yosef? Yachov Reuven est là-bas, veine en Yosef babor, il a déchiré ses vêtements, il voit que Yosef n'est plus là. Donc ça c'est, et il dit, Yachov Elecha vayomar, il dit à ses frères, l'enfant n'est plus là, va ni ana ani, comment je vais m'en sortir moi? Donc ça, en réalité, c'est une situation où Reuven se sent désespéré de ne pas avoir sauvé Yosef. Et à ce propos, nous devons comprendre le lien qu'il y a, la particularité, le lien particulier qu'il y a entre Réhouven et Yosef. Et à cela, il faut remonter à l'épisode que nous avons cité. Le fait que il est dit au sujet de Réhouven, que Réhouven, donc, est l'aîné. Donc, Yaakov, quand il a le premier rapport avec Léa, il pense que c'est Rachel. Donc, il pense que c'est Yosef qui va naître. Et en fait, dans l'intention, il a un rapport avec Rachel, mais dans les faits, il a un rapport avec Léa. Donc, c'est Réhouven qui naît. Donc, en fait, il y a un lien. L'intention de Yaakov était de donner naissance à Yosef, mais la situation, du fait des événements, il donne naissance à Réhouven. Donc il y a ici une relation, un lien entre Yosef et Réhouven. Deuxièmement, quand Réhouven défait le pasouk dit qu'il a couché avec Bilha, mais en réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé. On lui attribue cet acte comme si qu'il avait couché, parce que le fait d'avoir empêché l'union, il a perturbé la relation entre Yaakov et Bilha. Il nous dit le Rav Ari dit que, en fait, Bilha, elle a deux hé dans son nom. Et le hé est une lettre féminine. Ça indique la capacité de Bilha, la fécondité particulière de Bilha. Donc elle était capable, elle était destinée à donner naissance à deux enfants. En effet, Yaakov Avinu aurait dû avoir 15 enfants. Comme il est dit, Shifté, Ya. Les Shvatim, Ya. Ils sont au nombre de 15. Yudke, ça veut dire 15. Donc il y a 15. Et en fait, là, ils sont 12 enfants et 12 garçons et Dina. Dina aussi qui a un lien avec Yosef. Il aurait dû avoir encore deux. C'est ce que nous dit le Hari. De sorte que les 15 soient entiers, que les 15 enfants soient complets. Et là, Réhouven empêche cela. Alors, nous dit le Hari qu'il y avait deux Neshamot, Kedoshot, Tehorot, particulièrement éminentes, qui étaient destinées à venir au monde et qui sont descendues en ce monde prêts à être, à venir. Donc, il devait avoir deux enfants. Deux enfants qui sont jumeaux, qui devaient venir au monde par l'union entre Yaakov et Bilha. Donc c'était à cela qu'était destiné Bilha, avec le fait que Yaakov ait décidé de s'unir, de rester, de résider avec Bilha. Et Réhouven a empêché cela. Où sont passées ces deux Neshamot? Ces deux Neshamot, nous dit le Hari, ne peuvent plus remonter. Donc elles sont descendues spirituellement, dans un lieu qui était proche de ce monde. Donc on les a mis en attente, et c'est Yosef qui va leur donner naissance. Donc c'est Ephraim ou Menaché. Donc il y a la réparation de l'acte de Réhouven, elle est obligatoire, elle doit obligatoirement passer par la possibilité que aura Yosef de donner naissance à ses deux enfants. C'est ainsi que Réhouven se dit, il comprend que son acte était un acte négatif, un acte où il a empêché la venue au monde de Neshamot Kedoshot qui peuvent compléter les tribus d'Israël. Donc il se rend compte que son existence dépend maintenant de Yosef. Donc en voulant sauver Yosef, il veut réaliser la réparation de son acte. Et c'est pour cela que c'est Réhouven particulièrement qui va agir en faveur de Yosef. Donc Réhouven, dans sa personnalité, dans le lien particulier qu'il établit au départ du fait, comme nous l'avons dit, de la relation, que l'intention de Yaakov était de donner naissance à Yosef, et la réalité c'est qu'il donne naissance physique à Réhouven. Il y a ici un lien intime entre Yosef et Réhouven, et c'est cette idée là qui est mentionnée quand Réhouven veut absolument sauver, il veut surtout pas que les frères portent leurs mains et versent le sang et tuent Yosef. Parce que alors, il comprend qu'il est dans une impasse et il ne pourra absolument pas réparer son acte. Alors, il est dit ici que quand Yosef s'est approché, voyez qu'Asher ba Yosef et les Havayav Shitu et Yosef, ils l'ont déshabillé. Ils lui ont retiré la kétonette, donc la tunique que tout le monde porte, mais lui, il avait une tunique supplémentaire qui marquait la qualité, la particularité qu'il avait par rapport à la position qu'il a, la relation qu'il a particulière avec son père. Nous avons dit que Yaakov, et les toldot Yaakov Yosef, Yosef est le prolongement de Yaakov. Donc il est le conduit par lequel les énergies que Yaakov diffuse et octroie à ses enfants, il est ce conduit-là. Donc tout passe par Yosef. Les frères ne reçoivent que ce qu'ils doivent recevoir que par le truchement de Yosef. Donc c'est cette particularité ce qu'indique la kétonet passim. Donc ils lui ont enlevé ça, en lui enlevant la kétonet, les deux tuniques, la tunique que tous portaient, mais il avait une tunique supplémentaire, donc il le déshabille, c'est-à-dire qu'il lui enlève toutes ses prérogatives. Il n'a plus Yosef, il est moins que l'un d'entre eux. Il est rabaissé à un niveau inférieur. Il change d'état. Son statut change. C'est comme pour indiquer que non seulement son statut n'est pas au-dessus d'eux, mais qu'il n'est même pas un parmi eux. Donc il le déshabille. La tunique indique la fonction, le rôle qu'on a à jouer. Donc en lui enlevant la tunique, il lui enlève non seulement ses protections, et il lui enlève son rôle, sa fonction. Donc il le dénude complètement, il n'est plus rien. Il n'a plus de statut du tout. Donc il est comme moins qu'un esclave. Donc il le jette dans le puits. Et Rachamim nous dit, Vaikahuhu, Vayashlichu oto abora, Vabore ken bomaim. Donc le puits, il ne contenait pas d'eau, il était vide. Rachamim nous dit qu'il y avait des serpents. Donc, est-ce que eux savaient qu'il y avait des serpents? Ils ont choisi parmi tous les puits qui pouvaient, tous les trous, les gouffres qu'il y avait dans ce lieu. Il y en avait plusieurs. parce qu'il est, puisqu'il est dit, il leur dit, nous jetons-le dans l'un des puits. Donc il y avait plusieurs. Donc ils ont choisi celui-ci. Et celui-ci particulièrement, il y avait des serpents, des scorpions. Bon, donc ils savent pertinemment, c'est pour cela qu'ils l'ont jeté là. Et pour, c'est ça le conseil, c'est ça l'idée de Réhouven. Alors qu'est-ce que dit Réhouven? Réhouven se dit, il leur dit, pourquoi vous allez verser les enfants? Vous avez décrété qu'il est passible de mort. Donc, on peut développer cette idée pourquoi Yosef est passible de mort. Parce qu'en fait, il veut détériorer, détruire l'assemblage des tribus d'Israël. En disant qu'il doit dominer, qu'il doit les dominer, tel qu'il exprime dans ses rêves. Alors ça, c'est, au lieu d'être un des frères, il veut être le chef, il est au-dessus. Donc il se prend pour le père. Donc ça, c'est inadmissible pour eux, incompréhensible pour eux. Donc ils disent qu'il est passible de mort. Donc peut-être qu'on se trompe. Alors on va faire l'expérience, on va le jeter dans le puits. Si les animaux sauvages l'attaquent, alors ça signifie qu'on avait raison. Et sinon, alors ça signifie qu'on s'est trompé à son sujet. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont jeté dans le puits où il y avait des serpents. L'idée est la suivante. Il est mentionné dans, de quelle différence il y a-t-il si on jette quelqu'un, on le jette dans un puits avec des bêtes féroces, il va se faire certainement dévorer, donc il va mourir, ou on le tue avec un coup de couteau. Ça revient au même. On l'aura tué. Il dit non, le Zohar dit que l'homme a un libre arbitre. Il peut agir même si les décrets divins allaient à l'encontre du décret divin. C'est-à-dire que si le décret divin n'a pas scellé le sort de quelqu'un, l'homme peut de par sa behira, son libre arbitre, tuer cette personne-là. Alors que l'animal n'attaque l'homme que si un décret divin a scellé le sort de cet homme et autorise l'animal à le tuer. Donc l'animal, en fait, il dévoile le décret divin. Alors que l'homme, s'il tue son prochain, ça ne signifie pas qu'il y avait un décret divin qui n'indique pas le décret divin. Il indique qu'il a son propre libre arbitre. Donc c'est ça la différence qu'il y a ici. La question qui se pose à présent, c'est de savoir pourquoi le fait qu'il n'est pas mort, pourquoi ils le vendent, alors ils auraient dû le ramener à leur père. Ça c'est un point qu'il convient d'élucider par la suite. Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen.